En 2 Rois chapitre 3, un événement majeur va se dérouler et fera date dans l'histoire d'Israël. Et nous allons lire donc ce passage de 2 Rois 3, des versets 9 au verset 24. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab ». Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. » Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres, maintenant Moabites au pillage !» Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Donc là, nous avons une scène qui exprime au plus haut point la grâce de Dieu. Il faut comprendre que là, nous avons affaire à une guerre entre Moab et 3 rois. Mais le problème, c'est que Josaphat s'est allié avec un roi étranger et avec le royaume du Nord. Alors que le royaume du Nord vit dans l'idolâtrie et que la nation païenne, évidemment, ne suit pas l'Éternel. Donc c'est une alliance qui est contre nature. Donc là, Josaphat a fait une erreur, néanmoins, parce que dans le royaume du Sud, à cette époque-là, l'Éternel est quand même adoré et vit une relative communion avec Dieu. Dieu veut bénir Josaphat, et donc les autres nations vont, elles aussi, les 2 autres nations vont être associées à cette bénédiction. Mais là où nous avons une manifestation de la grâce de Dieu, donc le premier point, c'est que Dieu fait grâce à Josaphat, même s'il a fait une erreur en s'alliant avec des impies. Mais là aussi où il y a la grâce qui est manifestée, c'est qu'ils sont dans une situation très difficile, où il n'y a plus d'eau, et une armée étrangère très puissante va fondre sur eux. Et là, qu'est-ce que Dieu demande ? Il va demander au travers d'Élie de creuser des fosses. Et là, c'est intéressant parce que ça nous parle de la manière dont Dieu opère des fois dans notre vie. C'est-à-dire que nous faisons face à des difficultés qui paraissent insurmontables ou qui le sont. Et nous voyons 2 actions dans la grâce de Dieu, là, dans ce passage qui nous est demandé de croire. C'est qu'il y a la difficulté qui est devant nous, les ennemis, n'importe quelle épreuve, peu importe, mais en tous les cas, il y a cette chose insurmontable qui demande la puissance de Dieu à nos côtés. Mais pour que cette puissance de Dieu opère, il faut faire quelque chose d'autre qui semble impossible. Là, en l'occurrence, il aurait demandé, alors qu'il n'y a pas d'eau, et l'Éternel prévient au travers de la bouche d'Élisée, qu'il n'y aura pas de pluie, pas de vent, et pourtant, ils vont devoir creuser des fosses pour retenir de l'eau. Un peu comme aujourd'hui, pour éviter les inondations en période d'orage, on va creuser, vous savez, le long des routes ou près des maisons, des fosses, hein, des, des trous, ce qui fait que l'eau va pouvoir s'accumuler dans ces trous et éviter d'inonder les maisons. Donc là, c'est la même chose qui est demandée, c'est-à-dire qu'il va falloir creuser des fosses comme si une pluie abondante allait venir. Sauf que il n'y aura pas de pluie. Et de la même manière, parfois, lorsque nous avons besoin de la grâce de Dieu, celle-ci semble à une distance trop éloignée, elle semble très loin, cette grâce. On se demande comment Dieu va pouvoir opérer. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que j'ai une situation difficile avec quelqu'un, une relation conflictuelle, et non seulement il m'est demandé de pardonner, il m'est demandé de peut-être fermer ma bouche, il m'est demandé d'être patient. Donc ça, c'est une épreuve pour moi, ça me paraît être une montagne. Mais en plus, intérieurement, en moi, je n'ai pas la capacité d'obéir à cela. Ce qui fait que si j'obéis, j'ai l'impression d'être hypocrite. Et en même temps, si je n'obéis pas et que j'agis selon mes émotions et mes sentiments et ma justice propre, ça ne va pas être la volonté de Dieu. Donc dans les deux cas, je me sens piégé. Dans un cas, je désobéis en répandant ma colère peut-être sur autrui. Et dans un deuxième cas, je ne répands pas ma colère, ce qui est peut-être bien, mais en même temps, en moi, cette colère, elle est rentrée, elle est retenue, et je ne suis pas en paix avec Dieu, et j'ai l'impression de vivre dans l'hypocrisie. Et donc, parfois, il faut que la grâce de Dieu opère dans, je dirais, deux dimensions. La dimension extérieure, là vous avez les Moabites, il faut que Dieu fasse quelque chose par grâce contre les Moabites. Tout comme dans ma vie, il faut que autour de moi, devant une épreuve, une maladie, un conflit personnel avec quelqu'un, il faut que Dieu agisse à l'extérieur, mais aussi il faut qu'il agisse à l'intérieur de moi. Et ça aussi, ça me paraît improbable. J'ai l'impression que Dieu ne pourra pas me changer, que je ne changerai jamais, que je serai toujours ainsi, et que cette émotion négative que je ressens, ou cette dépression, ou ce découragement, va perdurer, et je ne vois pas de solution. Et là, Dieu va me demander, en quelque sorte, de me vider, de creuser des fosses, c'est-à-dire d'abandonner même ce que je crois être, d'abandonner le sentiment que je peux avoir, d'abandonner toute pensée rationnelle ou liée à mes expériences, mais de croire que Dieu peut faire quelque chose. Et donc, il va falloir que je prenne ma croix. C'est ça la creuser des fosses, l'application spirituelle pour nous, c'est de creuser des fosses alors qu'il n'y a rien pour remplir cette fosse. De la même manière, si je prends ma croix, je meurs à moi-même et j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de vie après. Ou, de façon ultime, lorsque Jésus s'est livré à la croix, il a fallu qu'il passe par la mort. Alors, il a continué d'espérer en éternel, mais dans son expérience, la mort est la mort. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui s'ajoute à la mort. C'est terminé, c'est un point final. Mais la vie de résurrection, elle, va au-delà du point final. Tout comme la vie de résurrection va au-delà de notre mort à nous-mêmes. Il va y avoir une vie de résurrection qui va se manifester. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Israël. C'est-à-dire que le royaume de Juda, d'Israël et puis d'Édom. C'est-à-dire qu'ils ont creusé des fosses et alors qu'il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de solution naturelle dans ce monde. Il est impossible normalement que des fosses soient remplies s'il n'y a pas un orage, une tempête ou au moins des pluies abondantes. Mais là, que s'est-il passé? Un miracle a eu lieu, des eaux sont survenues de nulle part, tout comme la vie de résurrection vient de nulle part. Et lorsqu'on s'abandonne à Dieu dans nos méditations, lorsqu'on par la foi, on se soumet à Dieu en disant « Voilà Seigneur, je m'en remets à toi, fais quelque chose, change mon état. » Et on creuse des fosses, et cette fosse est en fait un lieu où la grâce va pouvoir se manifester. Si je refuse de creuser des fosses, cette grâce va se diluer sur le sol, elle ne va pas rentrer en profondeur dans mon âme. Vous savez, lorsque vous avez là, en Luc chapitre 18, ce passage très connu où Jésus parle de deux personnes qui sont en train de prier, mais une vit selon sa justice propre, c'est un pharisien qui met devant lui ses capacités naturelles. Je jeûne deux fois la semaine, on voit ça au verset 12 hein, de Luc 18, je donne la dîme de tous mes revenus. Et donc ça, c'est sa justice propre qu'il met devant Dieu pour se justifier, tout comme des fois, on va de façon différente sans doute, mais lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, on va se justifier devant Dieu en disant « mais j'avais raison, j'applique la parole de Dieu, c'est l'autre qui a tort ». Ou alors on va dire, mais je ne comprends pas pourquoi je suis malade, parce que Seigneur, je te suis, je marche avec toi, pourquoi tu permets cette situation? Et donc, on ne creuse pas de fosse, là. Le terrain n'est pas favorable pour la grâce. Il faut se vider, il faut creuser des fosses pour que la grâce puisse pénétrer dans notre existence. Si on garde notre justice propre, le terrain reste lisse en fait. Il ne peut pas s'imprégner par cette grâce, il ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Et en revanche, le publicain, lui, qu'est-ce qu'il dit au verset 13 ? Il peut même pas lever les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'il se sent indigne, et donc il va vraiment recevoir la grâce de Dieu parce que il ne peut même pas se justifier en disant voilà, regarde ma position, je lève les mains vers toi, je lève les yeux vers toi, et regarde Seigneur, je m'attends à toi. Non, il s'attend même plus à rien d'une certaine manière. Il a honte de ce qu'il est. Il a plus rien à proposer à Dieu pour se justifier. Et il se frappe la poitrine en disant sois apaisé envers moi qui suis pécheur. C'est-à-dire que cet homme n'avait plus que la grâce de Dieu pour lui. C'est que sans la grâce de Dieu, il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas se tenir devant Dieu si Dieu ne lui offrait pas cette grâce de se tenir devant lui. Et donc, cet homme, par sa confession, creuse des fosses et la grâce de Dieu va pouvoir se répandre dans sa vie et il va être béni. De la même manière que ces trois rois ont creusé des fosses et l'eau est venue de façon surnaturelle, tout comme parfois la grâce de Dieu, elle vient dans notre vie, c'est qu'à un moment donné, on se sent mieux, on est en paix avec Dieu, on voit les choses différemment, on a un contrôle, une maîtrise de soi, quelque chose de différent parce que c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vivons en nous. Et donc aujourd'hui, pensons à cette vérité, c'est que la grâce de Dieu est toujours disponible, la seule chose c'est qu'elle a besoin de réceptacle, elle a besoin de récipient, elle a besoin d'un lieu dans notre âme pour se répandre. Et pour cela, il faut se vider. Il faut accepter que dans un endroit de notre existence, on abandonne tous nos droits, on abandonne toute notre justice propre, et du coup, le sol devient prêt à recevoir une semence. Rappelez-vous, quand il est parlé du salut, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 1:23, vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, de la même manière, lorsque nous sommes convertis, on s'est vidé de nos a priori sur Dieu, de notre justice propre, de notre religiosité peut-être, de notre athéisme. On a abandonné nos droits, on a abandonné notre façon de penser, et on s'est dit, peut-être que la parole de Dieu est la vérité. Et du coup, on a creusé des fosses dans notre âme, et la parole de Dieu est venue, et elle est devenue permanente. C'est la parole vivante et permanente de Dieu qui a été semée en nous. Et jour après jour, nous sommes transformés à l'image de Christ, parce que nous sommes sanctifiés par la vérité, comme Jésus le prie auprès de son Père, lorsqu'il en Jean 17, il dit « sanctifie-les par la vérité ». Nous pouvons rentrer dans ce processus de sanctification si la parole de Dieu opère en nous l'œuvre pour laquelle elle a été créée ou diffusée. Mais pour cela, il faut continuer de se vider, c'est-à-dire qu'il faut recevoir cette semence incorruptible dans un terreau qui est prêt. L'âme est tellement remplie de plein de choses, de façons de penser complètement erronées qui empêchent la grâce de rentrer. Mais la grâce, alors des fois, c'est la culpabilité qui empêche la grâce de rentrer. Ça peut être la justice propre, comme je l'ai déjà dit. Ça peut être l'endurcissement, l'aveuglement. Mais en tous les cas, à un moment donné, il faut dire « Seigneur, c'est moi qui ai tort, je me confie en toi et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer. » Et le publicain a été justifié. Les rois, les trois rois ont eu une bénédiction parfaite, merveilleuse, et ils ont été gardés par Dieu. Et cette eau a pu remplir les fosses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que aux yeux des ennemis, lorsqu'au matin ils ont vu là ces fossés remplis d'eau, ils ont cru que c'était du sang. Et ça nous parle en réalité de la justification que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est que le diable ne peut pas nous toucher parce que le sang de Christ nous couvre. Le sang, il n'est pas visible aujourd'hui, c'est l'eau de la parole qui nous permet de discerner et d'être au bénéfice du sang de Christ qui parle au ciel. C'est ce sang qui est présenté au Père en permanence. Nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous, et du coup le malin nous voit aujourd'hui avec couvert par le sang de l'agneau. Nous ne le voyons pas, nous c'est l'eau de la parole qui nous permet d'être au bénéfice de ce sang sang qui nous protège. Et ce sang fait que le malin veut nous attaquer, mais le malin ne nous touche plus parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Donc nous sommes vidés, Dieu nous a remplis par sa grâce et ainsi nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a fait pour nous. Ça se situe dans les cieux. Ça ne se voit pas, tout comme pour les trois rois, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent, on n'a rien vu, mais l'eau est apparue quand même. Et de la même manière, la vie de Christ se manifeste en nous, elle nous environne, il y a comme une Shekhinah autour de nous, et nous sommes protégés de l'extérieur, si vous voulez, des contraintes extérieures, des difficultés, les tensions avec certains, les difficultés de la vie, les problèmes physiques, la maladie, les problèmes financiers peut-être. Oui, il y a des difficultés, il y a des combats à mener, mais nous creusons des fosses pour que la grâce de Dieu nous remplisse et permette de vaincre le malin, de vaincre la chair, de vaincre le monde d'une manière surnaturelle et non pas avec les moyens humains et selon l'opération de la chair. Donc la bénédiction se trouve dans les fosses, lorsqu'on se vide, lorsque nous sommes faibles, la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse.